Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Edouard et Rico, deux moines zen de passage à Die, qui sont venus témoigner sur leur expérience. Ça fait quelques décennies qu'ils méditent dans cette voie qui vient du Japon. Si je ne m'abuse, vous me détromperez si je me suis trompé. Ils ont souhaité s'exprimer sur leur pratique pour témoigner de ce que ça leur fait de méditer tous les jours. Sur leur psyché, sur leur vie, sur leur engagement dans la vie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Louis.
Alors peut-être avant de commencer, pourriez-vous tous les deux me faire un historique de votre parcours et pourquoi, par exemple, vous êtes-vous engagé dans le zen? Comment c'est venu?
Bon, moi je me présente, je m'appelle Edouard. J'ai eu la chance de commencer zazen, la pratique du zen assez tôt. J'ai commencé à 17 ans, comme ça, par des fréquentations dans le quartier où j'habitais à Paris. Et puis, par l'intermédiaire d'un ami, comme ça, j'ai appris à connaître un petit peu la posture de zazen, la posture de méditation. Et en pratiquant cette assise, je me suis senti bien dans mon élément. Et par la suite, de fil en aiguille, j'ai continué à pratiquer tout au long de ma vie. Et voilà où j'en suis maintenant, après une bonne quarantaine d'années de pratique. On va pouvoir développer ça par la suite, si vous en avez envie.
Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai commencé la pratique du zazen par le biais de la macrobiotique. Et la première fois que j'ai fait zazen, c'était dans, je vivais dans un centre de macrobiotique. Et la posture m'a saisi tout de suite. J'ai décidé de rencontrer Maître Deshimaru, qui à l'époque était en France depuis quelques années. Ça m'a plu tout de suite et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Voilà, à peu près rapidement, comment ça s'est passé, quoi.
Et est-ce que c'est si facile que ça de méditer? Parce que moi qui médite un tantinet aussi, c'est quand même le matin et le soir presque un combat pour s'asseoir, non? Ou pas pour vous? Enfin, disons que des fois, il faut se pousser au derrière, quoi, non?
Par moments, il faut faire des efforts, ouais. Parce que naturellement, peut-être que on peut être un peu feignant. Et bon, le premier effort qu'il faut faire, c'est de se lever le matin, tout simplement. Et une fois qu'on est assis, qu'on est en posture, ça va tout seul.
Voilà. Bon, moi, je dirais que c'est variable. De temps en temps, on a vraiment l'envie d'aller pratiquer. On est poussé, on est dans une bonne énergie. On s'est couché tôt dans des conditions voilà, où tout s'est bien passé. Alors, c'est sûr qu'en se couchant à 3h du matin, ça va être difficile de se lever à 7h pour aller pratiquer. Si on a fait la fiesta toute la nuit, bon, bah, ça va être d'autant plus difficile. Si on a bu, si on a fumé, etc. Bon, bah, voilà, c'est comme tout un chacun. Mais dans la mesure où on est en bonne santé et qu'on a un train de vie, un mode de vie assez compatible avec la pratique, c'est plutôt un encouragement d'aller pratiquer pour le commun des pratiquants du zen, quoi. C'est agréable, c'est une posture qui n'est pas si difficile que ça. Au début, ça peut paraître un peu difficile, un peu austère, mais au bout d'un certain temps, le corps s'assouplit, la respiration, on est plus intime avec sa posture, avec sa respiration, et la posture et la pratique deviennent plus un confort qu'une contrainte. Mais après, c'est sûr que quand on est bien au chaud dans sa couette en hiver, on a envie de rester au lit. Mais bon, quand on sait qu'on est là pour pratiquer, voilà, c'est un effort. Voilà, on sort du lit, on va pratiquer, on est content, la journée démarre bien.
Alors, qu'est-ce que ça apporte de méditer? C'est un petit peu ça le cœur du sujet. Pourquoi médite-t-on, en fait? Qu'est-ce qui vous pousse à vous asseoir le matin et le soir?
Bon, alors, ce qui nous pousse, c'est qu'intuitivement, on ressent qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette pratique. Et après, on arrive à comprendre physiquement et physiologiquement que cette pratique nous apporte quelque chose. Ceci dit, c'est pas dans le but d'atteindre ou de s'approprier quelque chose qu'on pratique, mais effectivement, il y a des effets secondaires. On va appeler ça des effets secondaires pour qu'on puisse à peu près se comprendre. Le corps retrouve une tension musculaire à peu près correcte, la respiration s'approfondit, on ventile les poumons comme il faut, à plein régime, et l'état d'esprit se modifie. plutôt qu'avoir un état d'esprit un peu étroit, étriqué, qui tourne autour de sa propre personne, on a une ouverture de conscience, un état d'esprit qui s'élargit un petit peu, et on optimise un petit peu ses facultés et ses capacités. Voilà. Après, ça se retrouve dans la vie quotidienne. Et le zen qui est pratiqué dans le dojo, en posture de zazen, se retrouve naturellement dans chaque attitude, dans chaque état de conscience, état d'esprit de la vie quotidienne.
Ça se retrouve dans la vie quotidienne à partir du moment où on a une pratique régulière. Il y a un point qui est important, c'est la régularité. Mais la régularité, ça peut être aussi deux fois par semaine, mais à chaque fois les mêmes jours. C'est-à-dire si on fait le mardi matin, s'atteler à faire tous les mardis matins. Et un soir, par exemple, petit à petit, la pratique, la posture, elle fait son travail inconsciemment, automatiquement, naturellement, comme disait Maître Deshimaru. La base, c'est la régularité.
D'où ma question de tout à l'heure, effectivement, de savoir qu'il faut pas lâcher le morceau et qu'il y a quand même des forces internes qui peuvent, par exemple, on pourrait préférer faire la fête, parce que je sais que chez les zen, il y a ce côté un petit peu festif, enfin dans cette branche que je connais. Hein.
C'est pas une histoire de lâcher le morceau. L'histoire, c'est de, on cherche pas à obtenir quelque chose. Au départ, on pratique naturellement, on s'assoit. La respiration est naturelle, on fait un effort sur la posture, on a du mal parce que le corps, pour le corps c'est un choc, on n'est pas du tout habitué à croiser les jambes, étirer la colonne vertébrale, rentrer le menton, détendre les épaules, laisser la masse abdominale se détendre, et pour le corps au départ c'est un choc, donc on a du mal, la plupart des gens n'arrive pas à mettre les genoux sur le sol. C'est très rare d'avoir une bonne posture tout de suite. Mais avec le temps, avec la régularité de la pratique, petit à petit, le corps change. Et l'esprit change avec automatiquement. C'est la posture qui prend sa place. Et après, on s'ouvre. Naturellement, on s'ouvre. On comprend mieux. Mais on court pas après, il n'y a pas un but en soi, il n'y a pas l'idée d'arriver à une posture et c'est terminé. Ça change tout le temps. Ça dépend aussi la nourriture, qu'est-ce qu'on fait de ses journées, qu'est-ce qu'on boit. Tout ça, ça compte. Il y a des jours où c'est mieux que d'autres et il y a des jours où c'est plus difficile.
J'interviens juste parce que j'ai le souvenir d'il y a 3-4 jours où j'ai participé avec Luc et avec Rico à une journée de zazen qui avait lieu à Valence. Et le jeune homme et la personne, le moine qui animait la journée de zazen a dit quelque chose qui m'a un peu fait réagir dans le bon sens du terme. Il a dit le zen et la posture de zazen, c'est à la fois le point de départ et le point d'arrivée. Ça veut dire que c'est ici et maintenant que ça se passe. On a beau avoir pratiqué zazen pendant 40 ans, ou alors on est débutant, peu importe. L'instant présent, c'est ce qui met en valeur la pratique du zen.
Alors il y a cette fameuse phrase, c'est la posture qui chasse l'imposture. Mais qu'est-ce que cette imposture ? Alors, parce que j'ai bien compris que vous disiez qu'il n'y a pas un but en soi. On ne veut pas l'illumination, on ne veut pas devenir Bouddha. Mais ceci dit, il y a des effets secondaires. Tu as appelé ça modestement des effets secondaires. Et vous avez rappelé que ça a un impact sur notre vie quotidienne, sur la vie quotidienne du pratiquant. Mais ça se sent ça ? On a l'esprit plus clair ? On est plus joyeux ? Comment on peut en être sûr ?
Mais c'est ce que je t'ai dit, les bienfaits de la pratique. Hein. Moi, j'appelle ça les effets secondaires, mais c'est, dans un sens médical, c'est peut-être un peu péjoratif, mais dans le sens dans lequel je l'emploie, c'est plutôt quelque chose qui met en valeur la pratique. Hein. Comme je te l'ai dit, je vais me répéter encore une fois, mais on se sent mieux physiquement, l'énergie, elle remonte. Moi, j'ai eu des tas de moments où je me suis senti dans la difficulté, l'énergie qui est pas bonne, le corps fatigué, l'état d'esprit compliqué parce que j'ai travaillé trop intellectuellement ou quelque chose comme ça. Et le fait de me mettre en zazen, c'est un petit peu comme un nettoyage, une remise un petit peu à niveau. C'est un peu comme si tu fais la révision générale des 10 000 kilomètres avec ta voiture. Et là, au bout d'une heure de zazen, quand on a la bonne attitude, on ressort automatiquement, inconsciemment, naturellement, comme disait Rico, on ressort en forme.
Zazen, en fait, c'est un miroir. C'est une bonne pratique pour pouvoir observer son corps et son esprit. Donc c'est une rencontre avec soi-même, et la pratique du zazen, c'est le miroir. C'est vraiment tourner le regard vers l'intérieur et s'observer soi-même. Mais pas s'observer avec un doigt qui pointe et qui juge, c'est s'observer délicatement et s'apercevoir, tiens, bah, je suis pas si bon, ou tiens, là, c'est pas mal, ou tiens, là, j'ai un problème dans mon corps ici. C'est vraiment une bonne façon de s'observer et de se comprendre soi-même. Mais on continue la pratique, toujours, on dit inconsciemment, automatiquement, naturellement, parce que il peut pas y avoir de but. Si on a un but, ça veut dire qu'une fois qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de pratiquer? C'est pas possible. La pratique, elle est, Maître Deshimaru disait, j'espère que vous pratiquerez jusqu'à votre mort. C'est-à-dire qu'il y a, un, il n'y a pas d'étape, et deux, le départ et l'arrivée, c'est la même chose, mais on pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de départ et il n'y a pas d'arrivée.
Oui, mais il y a donc justement votre état de conscience qui est modifié. Ça, c'est indubitable.
Oui, 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 bien sûr. On a même fait des expériences avec des électrodes qui sont portées sur le corps, à différentes parties du corps et sur la tête. Et on s'aperçoit qu'il y a une modification mentalement, de point de vue cérébral et physiologique, qui fait que l'état de conscience se modifie. C'est un petit peu comme un sommeil sans être endormi. C'est un état de concentration où on est dans le relâchement, on abandonne complètement, on laisse passer les pensées. Et en même temps, on est complètement dans l'instant présent, dans la vigilance, dans la concentration. Voilà, c'est un peu le paradoxe du zen et de la posture de zazen. On est à la fois absent, on s'oublie soi-même pour mieux se comprendre soi-même.
J'ai bien compris qu'il n'y a pas d'objectif malgré des bénéfices secondaires physiologiques et mentaux. Mais y arrive-t-on réellement? Parce qu'on peut s'asseoir et être complètement omnibulé par le contenu de son mental. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la possession.
Il n'y a pas d'objectif parce que on n'arrive pas à quelque chose de définitif. C'est pas comme d'escalader une montagne, on arrive en haut et voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à redescendre. Là, on pourrait dire qu'on gravit une montagne, on la redescend, mais on regravit la montagne, on la redescend, et c'est jamais la même, en fait. Parce que on change sans arrêt. Moi, bon, je vais avoir 58 ans dans quelques jours. Si je regarde comment j'étais à l'âge de 30 ans, ma posture de zazen, l'énergie que je pouvais avoir, et aujourd'hui, c'est complètement différent. On peut pas s'arrêter sur quelque chose. Sinon, ça veut dire que c'est comme un sport. La pratique du zazen n'est pas un sport.
Oui, mais alors, il y a un truc qui me perplexise dans ce que vous n'avez cessé de répéter. Inconsciemment, automatiquement, naturellement. Mais si on médite, c'est pour développer une conscience de ce que l'on est. Pourquoi y amener de l'inconscience?
Ben, c'est ce que je t'expliquais par rapport à ce paradoxe que se connaître soi-même, c'est s'observer soi-même. Et s'observer soi-même, disait Dogen, un grand maître de la pratique, disait s'observer soi-même, c'est s'oublier soi-même. Mais je voudrais revenir sur un détail, là, parce que de la manière dont tu nous interviews et dont tu nous poses des questions, on te répond comme si c'était tout bénéf et tout était gagné d'avance et tout ça. Non, moi, je voudrais revenir sur un détail qui a son importance. C'est que c'est pas tous les jours facile, même si apparemment, comme je te l'ai dit, il y avait des effets secondaires qui étaient agréables et qui nous donnaient une dimension de vie qui soit en accord avec l'environnement, avec soi-même, avec le système cosmique. Il y a des fois où le zazen est compliqué. On a des zazen, des fois, qui sont, on appelle ça naraka, c'est des états de conscience qui sont, on va dire, un petit peu confus, infernal, parce qu'on a l'esprit trop compliqué, parce qu'on a le corps qui est pas bien, en bonne santé, et que tout se passe pas comme il faudrait que ça se passe. Il y a des fois, il y a des cycles, même, qui sont en dehors de la pratique, hein, dans la vie, où on est confronté à de la difficulté, et ça, c'est à nous de faire l'effort. Alors l'effort, il est plus ou moins intense, des fois il est plus ou moins bien récompensé à court, à moyen ou à long terme, mais c'est la vie et c'est la pratique de la vie quotidienne, la pratique du zen. Mais le point essentiel, c'est de pratiquer cette assise. Après, cette assise, elle impacte dans notre vie et dans tout le couronnement de notre vie, le développement de notre vie personnelle. Et il y a des états qui sont pas toujours forcément agréables. Mais on les aborde avec un état d'esprit de la pratique du zen, c'est-à-dire le moins possible avec son ego, le moins possible pour ne pas tourner trop autour de son identité personnelle et de son ego qui veut toujours ramener tout à soi, quoi.
Parce que par Edouard, en fait, il parle de ce qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est le karma. Le karma, des fois, on a un karma, on va dire, qui est lourd, et des fois, il est plus léger. Donc, par rapport à la pratique, on peut comprendre que si on est en souffrance, on est en couple, on se sépare, ou on perd son travail, ou on a une vie plus facile tout d'un coup.
On est malade.
On peut être malade aussi. Tout ça, ça influence sur le corps et sur l'esprit. Donc automatiquement, quand on va se mettre en posture, tout ça, ça va ressurgir. C'est pour ça que Maître Deshimaru insistait sur le point de toujours laisser passer. Quand les choses remontent, vous pouvez observer votre vie, vos difficultés, votre bonheur. Mais il disait toujours, laissez passer comme les nuages dans le ciel. L'important, c'est de toujours revenir, pendant la période de pratique, de toujours revenir à la concentration sur la posture et à l'observation aussi de la respiration. À la fin, c'est le zazen qui fait zazen. C'est plus... Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est zazen qui fait zazen. Et nous, on a juste une chose à faire, c'est de suivre. Et de rester concentré par rapport à cette assise. Après, dans la vie quotidienne, inconsciemment, ça se continue tout seul.
Alors, on n'en est pas un paradoxe près hein, ouais. Dans le zen. Il y a même ces fameux koans. Mais il y a quelque chose qui me turlupine dans ce que vous dites. C'est d'ailleurs, j'ai commencé par là, cette interview. C'est sur cette... c'est pas si facile, hein, ça, j'en suis bien conscient, de s'asseoir. C'est sur cette notion d'effort. C'est à la fois, s'asseoir, ce n'est pas un effort, mais pourtant, c'est un effort. Parce qu'il faut rester concentré, parce que des fois, on a un mental échevelé, parce qu'on a envie d'autre chose. Donc, effort, non-effort, comment vous arrivez à articuler ça? Parce que c'est très compliqué. Hein. Je cite un autre maître, c'est Krishnamurti, qui disait que à chaque fois qu'il y a une partie de moi qui veut quelque chose, il y a une fragmentation de mon esprit, il y en aura une autre partie de moi qui ne sera pas d'accord, il y aura un conflit. Donc, l'effort, il en faut un, alors qu'il ne le faudrait pas.
Voilà, je vais pouvoir te répondre sur cette notion d'effort parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les six paramitas. Et dans les paramitas, il y a le don, hein, le foussé, on appelle ça le don. Il y a la patience et il y a cette notion d'effort. Et cette notion d'effort, elle est nécessaire à la pratique. Un gamin, un bébé qui veut commencer à apprendre à marcher, il va commencer à faire l'effort de se lever. Il marche à quatre pattes, il va essayer, il va se casser la figure plusieurs fois. Et au bout d'un moment, quand il aura assimilé tout ce qu'il faut pour pouvoir se lever et marcher, il va pouvoir se lever et marcher sans effort. Voilà, c'est un petit peu ça le zen. Au début, la posture, elle est un peu difficile, comme disait Rico. Pour les personnes occidentales qui sont pas habituées à s'asseoir et à vivre au ras du sol, c'est difficile. Pour une personne qui commence zazen à 40 ou 50 ans, qui a pas l'habitude et son corps n'est pas habitué, c'est difficile. Mais petit à petit, on se familiarise avec cette pratique, avec la posture, etc. On se familiarise avec soi-même et d'un seul coup, on s'aperçoit que cet effort devient un confort. Il se transforme. C'est comme au début, quand on est en relation avec quelqu'un, on fait l'effort de connaître la personne, son fonctionnement, de savoir comment réagir par rapport à elle. Et petit à petit, on s'harmonise. Et voilà, la pratique du zen, c'est finir par s'harmoniser avec soi-même. Et cette notion d'effort diminue et se transforme en un certain confort. Ce confort qu'on retrouve après dans les actes de la vie quotidienne.
Oui, au début, de toute façon, il y a un effort. L'effort de se lever le matin, l'effort d'aller au dojo. Donc un dojo, c'est le lieu où on pratique la voie du zazen, la voie du Bouddha. Et ensuite, l'effort de prendre cette posture. La première fois qui est un choc et pour le corps et pour l'esprit. Mais la notion d'effort, dans mon esprit, elle disparaît au moment où je pense que quand on arrive à un moment dans la pratique où on est tiré par la pratique. C'est-à-dire que c'est plus soi qui va à la pratique, c'est la pratique qui nous tire. Parce qu'on est devenu cette pratique, on devient cette pratique. Donc, comme dit Edouard, à un moment donné, il y a un certain confort, ça devient facile de pratiquer. Le terme facile est peut-être un peu exagéré, je vais dire ça devient naturel. Ça fait partie intégrante de notre vie, comme de se brosser les dents, de manger, pour marcher, mais c'est pareil pour manger, tenir une fourchette, faire du vélo, enfin tous les actes de la vie quotidienne. À un moment donné, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, mais je dirais même plus, qui devient le pilier de notre vie. C'est-à-dire, c'est l'axe central où notre vie prend tout son espace, quoi, prend toute sa dimension. Mais quand même, ça n'empêche que des fois, il faut revenir à l'effort. Et ça n'empêche que des fois, on a du mal, on a mal aux genoux aussi. Même après 40 années de pratique, on a mal au dos, on peut être triste, on peut être, on n'est pas des robots, quoi. On reste des êtres humains. Bah voilà, qu'on reste des êtres humains, tout simplement, quoi.
Alors, toujours sur cette notion d'effort, moi je me rappelle, parce que je suis aussi passé par un centre macrobiotique,
ouais,
que j'avais une petite phrase que j'avais lue, c'est que quand un chien est malade, il fait plus rien.
Il jeûne.
Il reste tranquille et il jeûne, effectivement.
Ouais.
Les chiens, les animaux, quoi.
Les animaux, en général. Voilà,
en général, ils ouais. ont compris que le non-effort, en particulier, c'est si on laisse à la nature le temps de suivre son cours sans contrainte excessive, ça se passe naturellement. Mais justement, en revenant à ces passages difficiles que la vie nous réserve à tous, parce que la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, n'y a-t-il pas des moments où on ferait mieux justement de ne strictement rien faire et de rester allongé dans son lit ou au mieux peut-être sur un pré bercé par le vent, le soleil?
On pratique pas suivant la saison ou parce qu'aujourd'hui tiens il fait soleil et puis là il y a la tempête. On doit pouvoir être disponible, on doit pouvoir être prêt peut-être il y a un peu d'idéal, mais en même temps je pense que c'est vrai, on doit pouvoir être prêt à chaque instant. Faut pas trop s'écouter non plus. Sinon, si on commence à se dire, tiens, là, je suis pas bien, tiens, puis là, je suis triste.
Oh, aujourd'hui, il fait pas beau.
Voilà.
Je suis un peu déprimé.
Je suis un peu déprimé.
Il y a le dernier film qui est sorti de Dalida, là. J'ai envie d'aller voir un petit peu comment ça se passe, etc. Voilà. Moi, je vais te dire, c'est une phrase de Dogen, toujours. C'est vraiment les citations viennent souvent de la part de ce grand maître. Il disait, la bouche du moine est comme un four. C'est-à-dire qu'elle accepte tous les phénomènes et elle les transcende, elle les sublime. L'ego, il est là chez l'être humain. C'est une des notions de base. Sinon, on serait un bout de bois, sinon on serait une pierre, sinon on serait un animal. Bon, bizarrement, l'être humain fonctionne avec cet artifice qui s'appelle l'ego. Après, c'est à chacun et à soi-même, en vertu de ce qu'on a comme éducation, d'accomplissement dans la vie, de savoir le manipuler. Plutôt que de se faire manipuler par l'ego. Hein, il faut savoir contrôler son attitude, son comportement, savoir se concentrer sur quel mode de concentration. Est-ce qu'on va être vraiment complètement attentif? Est-ce qu'on va pouvoir relâcher un petit peu sa concentration? Est-ce qu'on va pouvoir être comme en vacances et se dire « ouais, voilà, là, je suis là, tranquille et je m'occupe de rien ». Voilà, tout ça, c'est de la connaissance. C'est se connaître soi-même, c'est être en résonance avec l'instant présent, avec ce qu'il y a d'important ou de moyennement important ou de pas du tout important. En ce moment, on est en train de foutre le monde en l'air avec tout un tas de paramètres qui sont dangereux pour la planète. Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il faut continuer, comme tu dis, de se poser tout le temps en opposition avec la nature, avec le système, le profit? La plupart du temps, les êtres humains sont avec cette notion de profit, d'accumulation, de consommation, etc., etc., ce qui permet à la nature d'être complètement mise de côté et il y a un déséquilibre. On puise dans les ressources. Et à la fin, si on puise trop dans les ressources avec cette notion de profit, on est complètement en train de se tirer une balle dans le pied, quoi.
Oui, j'entends bien, mais moi je reviens à cette histoire de faut pas trop s'écouter. Alors après, comme on est tous à plus ou moins schizophrène, hein, vous l'avez pu le constater quand vous vous asseyez, il y a ce débit du mental assez bavard qui dit oui et moi, et s'il faut que je fasse ci, il faut que j'aille là, qui nous assaille, etc. C'est pas facile d'écouter la bonne voix, donc c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez de l'écoute de... Enfin, comment reconnaître l'ego d'ailleurs de cette bonne partie qu'il faut écouter?
Intuitivement.
Attends, permets-moi juste deux secondes. Je vais juste, pour qu'on évite de passer à côté d'un sujet très important, c'est l'état d'esprit de la pratique de Zazen. Et là, je vais donner la parole à Rico, parce que moi, je l'ai déjà expliqué des centaines de fois. Et voilà, il va vous parler de l'état d'esprit, de l'état de conscience de Zazen.
Déjà, par rapport à la question, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est intuitivement, je pense qu'on sait, je pense que la plupart des gens, si on est quand même plus ou moins équilibré, que si on va à droite, si on va à gauche, le chemin qu'on prend, comme les animaux, normalement, on doit avoir cette intuition. Si on n'a pas cette intuition, c'est que déjà, on est très loin de la condition normale.
Oui, mais alors qu'est-ce que cette fameuse condition normale auquel vous voulez un petit peu parvenir? Et quel est cet état d'esprit dont tu parles, Edouard, alors?
Donc la condition normale pendant Zazen, c'est laisser passer les pensées. La plupart du temps, on fait focus sur une pensée et on tourne autour, on développe, on analyse et l'esprit devient trop cartésien. Et on fatigue l'esprit. Et à la fin, les êtres humains, et la plupart du temps, dans la civilisation contemporaine, on a l'esprit fatigué, voire l'esprit malade. La plupart des gens, enfin peut-être pas tous, mais un certain nombre de gens sont affectés par ça. Hein, ils font fonctionner leur esprit d'une manière trop consciemment. Et donc, on perd cette intuition et on est dans le mental. Alors qu'en Zazen, on observe ses pensées et, peu importe le contenu des pensées, on les laisse passer. Comme une feuille qui tombe d'un arbre, elle n'est pas arrêtée par quoi que ce soit en plein milieu, entre le sol et la branche, elle tombe. Et nous, quand on a une pensée en Zazen, on l'observe. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être qu'est-ce que je vais faire comme course pour manger ce midi, est-ce que à mon travail ou j'ai rendez-vous à telle heure ou j'ai un rendez-vous ou j'ai quelque chose à faire. Bon, voilà, on s'y intéresse pas plus que ça. Et à la fin, on est dans un état d'esprit qui s'appelle Ichiryo, c'est penser sans penser. C'est-à-dire que les pensées apparaissent, remontent à la surface de notre conscience pendant Zazen et on n'y pense pas. On les laisse passer. Et c'est dans ce laisser-passer qu'on trouve une espèce de paix intérieure, hein, une tranquillité. L'esprit se repose, retrouve ce qu'on appelle la condition normale. Sensei disait, pour illustrer un petit peu le zen, sensei c'est le mot qu'on définit pour dire maître. Donc maître Deshimaru disait, Zazen c'est comme rentrer dans son cercueil, on n'emporte rien. Donc tout ce qu'il y a comme contenu de pensée, de logique, de conscience, de etc. qui tourne autour du mental, hein, c'est comme une bulle qui éclate. Il y a rien à l'intérieur. On a tout laissé passer et on est juste là présent dans sa posture et dans sa respiration.
Et aussi, il comparait la posture et l'agitation mentale. Il représentait souvent un verre d'eau avec de l'argile ou un peu de terre dedans. Au début, on est comme si on avait tout mélangé. Et petit à petit, avec l'assise, les pensées, petit à petit, dans la posture, les pensées se calment. Et c'est comme la terre qui se repose et l'eau devient claire. Et ben, l'eau, c'est l'état d'esprit, c'est l'esprit. Et l'agitation mentale se calme et elle est contrôlée, en fait. Et il y a aussi un point important dans la pratique du Zazen, c'est justement les deux hémisphères, le droit et le gauche. C'est-à-dire on dit que le côté gauche, c'est le côté qui calcule, qui est rapide, qui est conscient, qui va vite, et le côté droit, c'est le cerveau de l'intuition. Et il y a une chose qui se passe en Zazen, c'est que quand on pratique la posture, quand on rentre le menton, à ce moment-là, le cerveau droit, il s'ouvre, il rentre en action. Et la plupart des gens dans la vie de tous les jours, ils sont beaucoup plus sur le cerveau gauche. Ils fonctionnent très peu avec le cerveau droit. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des aberrations comme on rencontre aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde, dans une démarche, où il faut être le plus fort, il faut être...
efficace,
le plus compétitif,
mais c'est de plus en plus qu'on voit ça. Et ce qu'on peut se rendre compte, ce qui va avec ça, d'un autre côté, il y a beaucoup de violence qui apparaît, et notamment chez les jeunes. Et ce qui n'est pas normal, ça, c'est ne pas être dans la condition normale. Et mais pour la plupart des gens, bah, tout ça, ça paraît normal. Mais c'est grave, en fait, ça, c'est très grave. Et c'est pour ça qu'avoir une pratique, et peut-être pas forcément le zazen, ça peut être le yoga, chacun doit trouver sa voie, mais il faut trouver quelque chose qui puisse nous ramener à soi-même et qui puisse nous aider à nous apaiser. La pratique de la voix, c'est aussi devenir en paix avec soi-même. C'est la base. Et à partir de cette paix, on peut aider l'univers tout entier, disait Maître Deshimaru. Il disait, par exemple, tout le monde n'a pas besoin de pratiquer, mais il suffit d'une poignée d'hommes purs, avec une pratique authentique et sincère, pour influencer tout un pays. Et ben là, c'est pareil. Si on est tout le temps confronté à de la publicité, à des compétitions, ben ça aussi, ça a une influence.
Alors, je vais revenir à la question initiale. Hein. Qu'est-ce que ça vous a fait, 4 décennies pour vous deux, de méditation? Et en prenant en compte une des réflexions que vous avez, c'est qu'en fait, il n'y a non seulement pas d'objectif, mais en fait, le début et la fin, ou en tout cas, assez instantané, à partir du moment où on s'assoit, il y a quelque chose qui se passe, un état modifié de conscience qui s'installe, une sérénité, et on devient un aimé avec soi-même, bien que ça soit un combat au fur et à mesure. Si on faisait un exercice uchronique, vous seriez... Comment, si vous n'aviez pas médité, alors? Vous seriez plus agité de la caboche?
Ben ça, on peut pas tellement vous expliquer ce qu'on serait quand on n'est pas, on peut pas être ce qu'on n'est pas, quoi.
Oui. On serait riche, beau.
Non, mais j'entends bien. Non, mais ceci dit, c'est quand même paradoxal, il n'y a pas de but, et pourtant, les effets secondaires, ou je ne sais quoi, c'est une certaine relativisation des contenus de notre mental. Donc, ça doit vous avoir marqué, quand même.
Oui, moi ce que je te dis c'est que je suis content d'avoir connu cette pratique jeune à 17 ans pour avoir le plaisir d'avoir goûté à quelque chose qui m'a nourri, qui m'a donné du plaisir, quelque chose qui m'a apporté tout au long de mes 40 années de pratique. Et j'en suis content encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle, comme dit Maître Deshimaru, l'esprit du débutant. J'ai l'impression encore de commencer comme si c'était le début de ma pratique. On dit toujours qu'on n'en est toujours qu'à la moitié pour pouvoir toujours garder quelque chose qui nous motive et qui nous donne le goût de continuer la pratique. Et moi, aujourd'hui, 40 ans plus tard, j'ai encore envie de pratiquer. Je voudrais pouvoir continuer encore jusque le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ma vie soit remplie, nourrie, complètement imprégnée du plaisir de la pratique qui m'a suivi tout au long de ces années.
Ben c'est ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Tant qu'on est tiré par la pratique, et comme j'ai dit à un moment donné, c'est plus soi qui pratique, on est amené par la pratique. On réfléchit pas, quoi. On se pose plus la question, est-ce que j'y vais pas, est-ce que... Et puis en même temps, 40 ans plus tard, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Et je trouve que c'est passé très vite, quoi. J'ai rien vu, quoi. Je me rencontre, par exemple, bon, en ce moment, avec la posture, j'ai du mal. En ce moment, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, j'ai de l'arthrose, j'ai des choses comme ça. Donc j'ai du mal, mais je continue. Et parce que même avec la difficulté, à un moment donné, pendant l'assise, la douleur s'apaise, elle se calme. Et c'est assez rigolo, enfin, je sais pas si on peut employer le terme rigolo, mais à un moment donné, pof, ça disparaît. C'est pas de la magie, mais le fait d'être concentré sur la posture, sur la respiration, on finit un peu par s'oublier soi-même. Et inconsciemment, automatiquement, eh ben, on continue d'avancer.
Alors vous avez peut-être eu la chance quand même de... Toi, tu l'as rencontré, Edouard, aussi, Monsieur Deshimaru, enfin monsieur...
Oui, bah oui, tous les deux, on l'a rencontré. Hein.
Est-ce que ça joue quelque chose de rencontrer quand même un personnage charismatique et qui vous entraîne, hein? Parce que dans l'hindouisme Advaita, que j'ai un petit peu suivi aussi, ils disent qu'un maître, c'est comme un phare dans la nuit et on a du mal à y arriver seul, tellement l'ego est rusé et nous tend des pièges en permanence. Donc c'est important d'avoir quelqu'un de lumineux qui vous montre... un petit peu où vous en, peut-être pas où vous en êtes, c'est le boulot de chacun, mais en tout cas, qui vous donne envie de méditer. Mais... est-ce que de nos jours, vous avez encore des maîtres qui vous inspirent ou est-ce que vous êtes en autonomie totale?
Non, maintenant, après avoir connu Maître Deshimaru, j'ai pas eu la chance de rencontrer un maître qui avait cette envergure. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont marqué dans la vie d'une certaine manière. Après la mort de Maître Deshimaru, j'étais encore assez jeune. J'avais 25 ans quand Maître Deshimaru est décédé. Et donc, c'était une difficulté pour moi, c'était d'avoir connu Maître Deshimaru trop jeune. Je n'ai pas pu savourer la qualité de son enseignement comme une personne aurait pu la comprendre en étant adulte. Je me sentais encore trop naïf et trop jeune par rapport à tout ça. Et c'est maintenant ou bien plus tard que j'ai compris la dimension, parce que j'ai continué à pratiquer, même s'il est mort, j'ai continué à pratiquer, même si le maître était plus présent tous les matins au quotidien, j'ai continué, j'ai suivi les anciens, notamment une personne qui s'appelle Stéphane Thibault, qui m'a apporté beaucoup dans ma pratique, c'était un peu comme un grand frère. Et j'ai continué et j'ai pu apprécier et comprendre toute l'ampleur que ça représentait. Et pour moi, Maître Deshimaru, c'est la personne qui a le plus incarné le zen dans ma vie. C'est comme le Bouddha. On disait que le Bouddha, à l'époque du Bouddha, il n'avait pas besoin de donner des enseignements. Il était juste présent au niveau de la vie quotidienne et le fait de le fréquenter, d'être dans son entourage, vous donnait quelque chose, vous apportait quelque chose et vous transmettait des valeurs saines. Et à travers ces valeurs, on peut s'épanouir. Et avec Maître Deshimaru, c'était pareil. On n'avait pas besoin de l'entendre faire des grands enseignements ou des choses comme ça. On était juste au quotidien proche de lui et on voyait de la façon dont il agissait, la façon dont il gérait sa vie, comment il gérait son travail. Et à tout moment, on voyait qu'il incarnait, il transpirait la dimension spirituelle, la dimension universelle de l'être humain. Hein, c'était l'incarnation de ce qu'il y a de plus, on va dire, intéressant chez une personne.
Je mettrais une petite différence, et c'est pas vraiment mettre une différence, c'est que je reviens sur le fait que moi j'ai rencontré Zazen, donc la posture assise, à travers la macrobiotique. Et à l'époque où je pratiquais la macrobiotique, le jour où le centre macrobiotique où je vivais, qui était dirigé par, à l'époque, René Lévy, qui était un disciple de Oshawa, il nous a fait faire zazen une vingtaine de minutes, et c'est la posture qui m'a saisi. J'ai aimé tout de suite cette posture. Et quand j'ai appris qu'il y avait un maître comme Taisen Deshimaru qui était en France et qui organisait des camps d'été, j'ai voulu le rencontrer. Et donc, je suis allé au dojo de Pernetti, et à l'époque, qui était à Paris, dans le 14e arrondissement. Et quand j'ai rencontré Deshimaru, j'ai eu le flash de ma vie. Je pourrais même dire j'étais amoureux de cette personne, tellement, comme disait Edouard, il incarnait l'authenticité d'un enseignement qui était en application dans la vie de tous les jours. Moi, je n'ai pas eu de relation, comment dire, où je discutais avec lui ou des choses comme ça, mais ça se faisait plutôt dans le regard et à travers le corps. C'est le corps qui parlait souvent dans l'enseignement. De toute façon, quelles que soient les pratiques, partout on dit c'est important d'avoir un maître et c'est important d'avoir un guide. Parce que le mot maître en Europe et au Japon, c'est pas exactement la même chose. On dit l'ancien. Quand on parle de sensei, on traduit par maître, mais ça veut plutôt dire l'ancien. Mais suivre un maître, c'est important. Et en ça, Maître Deshimaru, c'était un pôle extrêmement important. Et de l'avoir rencontré, en tout cas pour moi, dans ma vie, j'ai pu pratiquer à peu près 3 ans avec lui. Et ça m'a énormément aidé. Et je sais que si je ne l'avais pas rencontré, je ne sais pas comment ça serait passé, quoi.
J'entends bien, et d'ailleurs j'étais au courant, Luc Boussard, premier président de RDOM, on avait déjà parlé de cette stature exceptionnelle de Deshimaru. Mais alors, de nos jours, un jeune qui voudrait commencer le zen, il aurait donc pas la chance de rencontrer un maître d'une telle envergure, donc pas la chance d'être embarqué dans une telle aventure humaine authentique. Est-ce que ce serait un handicap ?
On peut pas parler de handicap véritablement, ce serait quelque chose, c'est sûr que s'il y avait des maîtres de la stature de Deshimaru à tous les coins de rue, ça serait extraordinaire, ça serait des leaders spirituels qui pourraient changer, révolutionner le cours de la planète. Mais il y a toujours des dojos dans toutes les villes maintenant, la mission de Maître Deshimaru s'est développée à travers la France et en Europe et voire dans le monde entier, et pour quelqu'un qui est intéressé par cette pratique, il y a toujours un dojo, un endroit où on peut pratiquer la posture. Et c'est la posture qui est importante. Maître Deshimaru, il est venu mettre la graine du zen en Europe. Et cette graine, c'est la posture de zazen. Donc, il y a toujours moyen de fréquenter un dojo. Et dans les dojos, dans le meilleur des cas, la personne qui dirige le dojo, comme Luc Boussard a dit, est compétente. C'est un disciple. Ce qui est important avec Maître Deshimaru, c'est ce qu'on appelle la transmission du zen, la transmission du dharma, de l'enseignement, cette notion de dharma. C'est pourquoi il est venu en Europe. Et maintenant, ce dharma, il est européen. Le zen est européen. On a toutes les qualités de pouvoir pratiquer le zen tel qu'il nous l'a enseigné. Donc, pour quelqu'un qui voudrait démarrer le zen aujourd'hui, il y a toujours moyen sur Internet de taper le mot zen et de retrouver une adresse où on pratique l'assise Mushotoku. Voilà, je terminerai là-dessous. Un dojo où on pratique l'esprit Mushotoku, sans esprit de profit, sans vouloir prendre et posséder quelque chose, juste pour la pratique sincère et l'assise immobile. Pas bouger, pas bouger.
Tout à l'heure, quand même, vous avez dit aussi que c'était une chance pour vous d'avoir commencé le zen relativement tôt. Est-ce que c'est plus dur de commencer la méditation quand on est un peu plus avancé dans l'âge, où on est un peu plus sclérosé, un peu plus mécanique?
Ce qui compte avant tout, c'est l'état d'esprit. C'est avec quel état d'esprit on pratique. Il y a eu des maîtres zen dans l'histoire. Il y a une histoire où il y a une personne, il a commencé zazen à 60 ans. Il est devenu moine à 80 ans. Et à 100 ans, il est devenu maître et il est mort à 120 ans. Et il y a des gens qui commencent très tôt, qui ne deviendront pas maître. Et de toute façon, c'est pas un but en soi de devenir maître. La chose essentielle, c'est d'abord être maître de soi-même. Mais après, commencer tôt, tard, bien sûr, par rapport au corps, à l'état du corps, ça peut être plus facile. Mais on peut très bien être handicapé jeune et on peut être très bien en très bonne santé âgé. Dans la sangha de Deshimaru, il y a des gens qui sont arrivés qui avaient une trentaine d'années, qui aujourd'hui ont plus de 70 ans, qui ont une sangha, c'est-à-dire une communauté de disciples, et qui pratiquent zazen, qui ont une très bonne posture et qui font un très bon enseignement. Donc il faut revenir, enfin, dans mon avis à moi en tout cas, l'état d'esprit prime avant tout, avant l'âge.
Est-ce que ça aide justement de rejoindre une sangha, une communauté? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est même conseillé plutôt que de méditer seul chez soi?
Ben, du point de vue de la pratique, il est conseillé de pratiquer de temps en temps avec plus de monde, hein, parce qu'on est débutant, on se met dans la posture, on a des défauts, on est obligé de se faire corriger la posture pour pas partir dans une mauvaise direction. Et l'ego, c'est pareil, hein, de temps en temps, il part dans une mauvaise direction. Hein, on croit qu'on a tout compris, on croit qu'on est dans la bonne direction. Et en fait, c'est l'ego qui parle à travers notre comportement, notre attitude. Et le maître est toujours là pour vous remettre dans la bonne direction. Donc de temps en temps, c'est bien de pratiquer zazen seul, mais dans la mesure du possible, c'est bien aussi de suivre ce qu'on appelle les trois trésors, voilà. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha. La Sangha étant la communauté des gens qui pratiquent, un petit peu comme les chrétiens qui ont des ordres religieux. La Sangha, c'est un miroir. Et quand vous faites un pas de travers ou que vous êtes à côté de la plaque, il y aura toujours un ancien moine ou le maître qui saura vous remettre dans la bonne direction avec générosité et compassion.
Alors, avec un coup de bâton, c'est nécessaire. On dit que l'enseignement est véritablement actualisé justement quand il y a le Bouddha, quand il y a le Dharma, parce que quand il y a le Bouddha, l'enseignement peut être transmis. Et la Sangha, en fait, c'est la communauté des pratiquants.
C'est comme un bon feu. Un feu, ouais. Quand il y a une seule bûche, elle brûle d'une certaine manière. Et quand il y a plusieurs bûches, voilà, le feu est plus fort, plus intense.
Et puis quand on pratique seul, surtout au début, au niveau de l'état d'esprit, on peut se tromper. On peut se tromper aussi dans la posture. Par exemple, des personnes se mettent à pratiquer seules, elles se rendent pas compte qu'elles sont soit un peu trop en avant, trop en arrière, trop sur le côté, le menton qui est pas assez bien rentré. Et en fait, en continuant à pratiquer seules, elles inscrivent un défaut dans leur assise. Et quand on veut les corriger, elles résistent. Elles comprennent pas. Elles sont persuadées parce qu'elles font zazen tous les jours chez elles, mais elles se trompent. Et c'est très important de pratiquer avec les autres, justement par rapport à la posture.
Cher Rico et Edouard, cet entretien va se terminer. Nous aurions pu y consacrer d'innombrables heures.
Des années.
Des années, parce que c'est un sujet inépuisable.
Des siècles.
Des siècles. Et je vous ai même pas titillé sur un sujet sur lequel je titille systématiquement les moines zen, sur le côté un peu étrange, parce que vous savez, il y a un beau proverbe portugais, je le connais pas en portugais, mais je connais sa traduction, c'est « quand un poisson pue, il pue de la tête ». Donc effectivement, quand on a un gourou, il vous emmène dans une direction et vous avez eu de la chance d'en connaître un. Mais ceci dit, il avait une drôle de moralité puisqu'il circonvenait un des préceptes de l'octuple.
Il transgressait
un des préceptes de l'octuple nobsanti, à savoir que les zen, entraînés par l'exemple de Taizen Nashemaru, n'ont aucun problème avec les intoxicants, par exemple.
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le maître Deshimaru, il disait, dans la vie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bien sûr, on va pas dire vous pouvez tuer, non. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça veut dire si vous voulez sortir, vous voulez boire, vous voulez vous amuser, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a une chose. Le matin, vous devez être là au dojo. Et si ce que vous faites dans la vie vous empêche de pratiquer, dans ce cas-là, vous devez réfléchir à votre comportement. Mais Maître Deshimaru se comportait très bien. C'est vrai, c'est vrai que j'ai une anecdote là-dessus justement. Il a appelé un ancien disciple. Il était 3h ou 4h du matin. Et c'était un ancien comptable. Et il a dit, très important, on discussionne. Et le disciple, à 2h du matin, il est venu. Et oui, sensei, qu'est-ce qu'il y a? Et Maître Deshimaru lui a donné du whisky. Et ils ont bu et discuté jusqu'à 4h du matin. Et après, à un moment donné, il lui a dit, on va se coucher parce que demain, pour le zazen, ça va être dur. Et le disciple pensait que Maître Deshimaru ne se lèverait pas. Et le lendemain matin, lui, par contre, n'est pas venu au dojo. Il n'a pas pu se lever. Et tout le monde lui a dit, mais... c'est dommage, t'as loupé, Sensei ce matin était en pleine forme, il a fait un enseignement, c'était extraordinaire. Et ben voilà, c'est ça. C'est si ça vous empêche, si ça... comprends ce que je veux dire.
Il n'y a pas de souci.
Voilà, peut-être après ma façon d'exprimer.
Non, j'aime bien titiller un petit peu sur ce point particulier, ouais. les adeptes du zen, qui terminent souvent leurs séchine par des soirées bien arrosées, si je ne m'abuse.
Ouais, on appelle ça des campagnes.
Les séchine, ils l'ont fait.
C'est des fins de séchine où on boit un coup et puis on fête.
Voire deux.
On fête, ouais, voire plusieurs, ouais. Et on fête, et c'est une manière de fêter le zen, de l'enseignement et la convivialité. On pratique pas seul à boire notre bouteille, chacun dans son coin, voilà. On boit un coup ensemble, on pratique ensemble, on vit, on meurt ensemble, on est tous interdépendants les uns des autres.
Et en plus, tout le monde ne boit pas. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool, qui ne...
Oui, c'est pas automatique non plus.
Avant de se quitter, Rico et Edouard, vous me confirmez que le zen est bon pour le monde tel qu'il est aujourd'hui, si je ne m'abuse?
Je dirais même qu'il est nécessaire.
Le zen, dans toute sa plénitude, ça incarne la sagesse, comme disait Patrick Rico, l'intuition est la dimension la plus élevée de l'être humain. Donc c'est forcément bon et c'est bon pour l'instant présent, en souhaitant que ça soit bon pour les jours à venir.
Maître Deshimaru disait, avoir un ego fort, d'accord, mais pas un ego égoïste.
Oh ! Eh bien, Edouard et Rico, à la prochaine fois que vous passez par Die, on continue cette petite causerie à bâton rompu au coin du feu.
D'accord, avec plaisir.
Merci Louis de ton accueil et d'avoir pu poser les bonnes questions en souhaitant qu'on ait pu y répondre de la meilleure des manières. Voilà.
Ce sujet est tellement vaste qu'on aurait pu aborder cette interview de tellement de façons différentes que c'est même pas très grave. Hein. C'est un peu comme le zen. Au bout du compte, l'essentiel c'est l'attitude.
Voilà, l'essentiel est passé.
Ok, merci.
Merci, ouais. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.